Parole Rurale, une émission de reportage à la rencontre des paysans du Sud Aveyron, ou l'agriculture racontée par ceux qui la font. Au bord de la départementale 907, en direction des gorges du Tarn en partant de Millau, se trouve un bâtiment en forme de tonneau, le Vieux Noyer. C'est là que deux viticulteurs, Eric et Ludovic, nous accueillent.
Eric et Ludovic, bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter ?
Bonjour, Ludovic Bouviera. Je suis viticulteur sur la commune de Rivière-sur-Tarn.
Et toi, Eric ?
Bonjour, moi, viticulteur aussi sur la commune de Rivière-sur-Tarn, village de Boyne, et sur l'exploitation de domaine du Vieux Noyer.
Et alors, comment ça se fait donc, que vous travaillez ensemble tous les deux ?
Moi, j'ai commencé dans les années 2000 en tant que viticulteur, mais avant ça, j'étais pas viticulteur. Mmh. Mes parents avaient une ferme sur le Levezeau, et donc, suite à un accident de mon père, il a été obligé de quitter sa ferme. Donc, il n'est pas resté sur les lieux de la ferme, donc il est redescendu dans le sud d'Aveyron, à Boyne exactement, pour que ma mère puisse trouver du travail. Donc, et moi, à ce moment-là, j'étais parti dans l'école carrossier-peintre. Et puis, le fil en aiguille, sentir le diluage, j'y arrivais plus, quoi. Et puis, ma copine, aujourd'hui, qui est ma femme, son père était viticulteur. Donc, juste dans le même village. Donc, comme j'étais déjà né dans l'agriculture, c'est quelque chose qui m'attirait encore. Donc, et donc, le week-end, j'allais lui donner un coup de main sur travailler la vigne, parce qu'il était vigneron, en fait, en cave particulière. En 2003, je me suis installé en fait avec lui. Donc j'ai quitté le métier carrossier peintre. Au moins je sentais plus mon diluant et je sentais la vraie nature. Donc et puis pour continuer mon parcours, on avait de la cerise chez nous, pas mal de cerisiers. On avait de la mirabelle sur cette exploitation et peu de vignes. On avait 3 hectares de vignes. Mais la cerise à ce moment-là, c'était sur cette exploitation, moi je trouvais que la cerise, ça rapportait pas en fait. C'était beaucoup de main d'œuvre et donc je voyais que la vigne, ça avait plus d'effet sur notre région et que l'appellation Côte de Millau, parce qu'on fait partie de l'appellation Côte de Millau, les gens étaient plus attirés sur les vins que nul n'est prophète de son pays. Hein. Le Côte de Millau à l'époque, c'était difficile à boire, hein, comme dans le Languedoc, et aujourd'hui, ce sont des régions qui ont une renommée qui est forte, quoi. Et donc, on a arraché des cerisiers, et on a planté de la vigne année par année, donc jusqu'à 9 hectares de vigne. Donc, j'étais associé avec mon beau-père et ma belle-mère jusqu'en 2016. En 2016, ils sont partis à la retraite, mais à ce moment-là, il me manquait pas mal d'hectares de vigne, parce qu'on vendait bien. Et à ce moment-là, j'ai mon voisin qui fait partie de la famille de mes beaux-parents, Éric Portalier, auquel j'ai demandé des hectares de vignes pour compenser ça. Mais en fait, lui, il avait 22 hectares et j'ai demandé 5 hectares. Et tout compte fait, il vous racontera, mais tout est venu chez nous. 22 hectares en plus.
D'accord.
Donc voilà. Je vais laisser la parole à Eric, parce qu'il est à côté de nous.
Oui, donc, voilà. Il va continuer. C'est à ce moment-là qu'il rentre dans la partie, Eric.
Voilà, si vous voulez, moi, pour mon parcours, j'ai plus d'un parcours plus ou moins traditionnel. Donc, si vous voulez, je suis né à Boyne. Mes parents avaient des vignes, pareil, des vignes arbres. Et j'ai suivi un peu le chemin plus ou moins classique, quoi. Et j'ai fait un BEP, après un bac pro en viticulture et oenologie. Et après, je me suis installé en 2000. Et voilà, après on a pris un peu le même sens sur notre exploitation que le sens culturel que le Vieux Noyer, c'est pareil. Disons qu'on a diminué la cerise pour augmenter la vigne, parce que déjà chez nous, la vigne c'est quelque chose qu'on l'a un peu dans le sang. On est plus ou moins on est la quatrième génération à faire du vin sur Boyne. Quoi.
D'accord.
Donc oui. c'est un peu dans les gènes, quoi, si on peut dire. Et voilà, de fil en aiguille, puis déjà avec Ludo, on travaillait pas mal ensemble, avec du matériel en commun pour les vendanges et tout. Et puis, il est arrivé en 2017 où moi je me suis remis en question sur plein de choses. Et en plus de ça, 2017 c'est une année où on a subi du gel sur la vigne, sur les mirabelles, enfin surtout quoi. Donc voilà, j'étais un peu à un virage. un mirage. Puis bon, j'étais dans une autre structure où j'avais des gros soucis avec. Donc du coup, j'ai quitté cette structure et puis ça s'est fait comme ça. On s'est regroupé. Puis en parlant avec Ludo, il m'a dit, écoute, voilà Eric, moi, il me manque des hectares et tout. Ça m'intéresserait. Mais j'ai dit, écoute Ludo, moi, mais ça sera tout ou rien, quoi. Et puis voilà, puis ça s'est fait comme ça, quoi. Puis ça, et puis c'est un choix que je ne regrette pas d'avoir fait, loin de là, hein, même bien au contraire. Aujourd'hui, c'est vrai que, comme je dis, la nuit je dors. Et j'ai plus le 15 du mois la banque qui m'appelle pour savoir comment on va finir, quoi.
D'accord.
Voilà.
Exactement. Et donc, au jour d'aujourd'hui, vos deux parties sont une même entité.
C'est le domaine du Vieux Noyer.
Tout à fait, d'accord. Voilà. C'est une même exploitation.
J'avais déjà une identité. Ouais. Donc, le domaine a commencé à être répandu pas mal dans l'Aveyron. Et donc lui n'avait pas d'identité parce qu'il a mené une structure, son raisin. Et cette structure transformait directement le raisin en vin. Il a porté son raisin et puis quand il avait fini, c'était fini, quoi.
Il m'a acheté le raisin. Voilà, c'est, j'avais pas l'aboutissement que j'ai aujourd'hui de A à Z, quoi. J'avais que le côté production, j'avais pas le côté transformation et le côté mise en bouteille et vente qu'aujourd'hui j'ai, quoi. C'est vrai que c'est autre chose, voilà. C'est quand même plus intéressant, c'est plus gratifiant aussi, puis ça permet de faire des choses, de faire des cuvées plus spécialisées aussi, c'est tout un ensemble, quoi. C'est,
ouais. Vous faites que du vin maintenant ?
Non, on a de la Mirabelle.
D'accord.
De la Mirabelle, qui lui, Eric, avait de la Mirabelle, et moi j'en avais... 5 hectares, Eric en avait
pratiquement 7.
7 hectares, donc aujourd'hui ça fait une grosse production de Mirabelle. Ça a toujours marché, c'est pas très capricieux avec la météo comme par rapport à la cerise. La cerise, s'il pleut, ça peut se fendre et c'est incommercialisable. Que demain sur de la Mirabelle, même quand elle est mûre, c'est quelque chose qui ça supporte la pluie. On peut la conserver au frigo pendant une semaine, une fois ramassée. Que la cerise, non, c'est ramassé et maximum 3 jours, il faut que ça soit sur les étals. Ça arrive fin août. Donc nous, à ce moment-là, on n'a pas trop de travail parce que les vendanges sont fin septembre. Et donc, l'enchaînement, ça allait bien, quoi. Donc, voilà. Donc la cerise, chez nous, on n'en a plus. D'autant plus parce que notre exploitation est en bio depuis 2009. Hein. Donc quand Eric est arrivé en 2018, on a basculé ces 22 hectares en conversion biologique pendant 3 ans. Aujourd'hui, l'exploitation est 100% en bio, et d'autant plus qu'on a passé, il y a 3 ans, la Mirabelle en bio. Donc, passer 12 hectares de Mirabelle en bio, c'est quand même énorme, parce qu'en fait, j'ai eu pris...
Et puis, pendant 3 ans, on ne peut pas la vendre.
Si, peut la vendre, mais sous le nom conversion. Ouais. Mais bon, c'est un pari risqué, parce que j'ai appelé la Lorraine, aussi, qui est le premier pays de Mirabelle. Le syndicat, il nous disait, on n'a jamais vu personne avec 12 hectares de Mirabelle en bio. Donc, ils ne pouvaient pas m'aiguiller. Donc, les premières années, on a perdu quelques tonnes.
Ça a été un peu compliqué le temps de se trouver, de savoir vraiment à quel moment intervenir dans les Mirabelliers, parce qu'il y a des moments très précis, notamment sur le puceron, ça se joue à 4-5 jours près. Quoi. Donc, il y avait des parcelles où ça avait super bien marché, et puis d'autres où on a eu un peu plus de casse. Quoi. Voilà, mais bon, on ne savait pas où on allait. Quoi. Les premières années, c'était...
Voilà, et quelle est la part du vin et de la Mirabelle dans votre chiffre d'affaires ?
Donc aujourd'hui, c'est la viticulture, oui. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec 32 hectares de vignes et 12 hectares de Mirabelle. Donc aujourd'hui, la part du chiffre d'affaires, c'est la viticulture qui remporte le chiffre d'affaires. Hein. Donc d'autant plus que quand Eric est arrivé avec 22 hectares, pour notre exploitation, c'est quelque chose c'est énorme. On change de dimension d'entreprise. On peut dire entreprise agricole, hein, parce que c'est quand même... On a
toujours le statut agricole.
On a bâti du bâtiment. Il a fallu investir lourdement pour accueillir tout ce raisin. Et donc, après, comme toute entreprise ou comme tout agriculteur, on s'endette. Ça s'est fait partie du système...
L'agriculture, c'est des métiers où on prend des risques.
On prend des risques beaucoup, ouais. Ouais. Et on en prend tous les jours. Ouais.
Et c'est un peu pour ça qu'on peut rebondir aujourd'hui sur force de tous ces risques qu'on avait, on a créé une brasserie. En plus, parce que c'est quelque chose, on achète la matière première, pour l'instant on ne produit pas. Et c'est vrai qu'on est à l'abri de tous ces aléas climatiques. Quoi.
Ouais. C'est ça, ouais, en 2000 on a monté la brasserie, ouais. Mais quand le Covid est arrivé au mois de mars, on a commencé avec le Covid, ouais. et pas évident pour installer les machines. Et puis aussi, comme il dit Eric, la Mirabelle, il y a des amplitudes de chiffre d'affaires qu'aujourd'hui on a 6 salariés en permanence. Donc c'est plus nous, donc ça commence à faire du monde sur notre exploitation.
Sur la structure, vous êtes 8, 8 personnes.
8 personnes.
Ah oui, donc ça fait.
Et plus tous les saisonniers qu'on embauche pendant les périodes de récolte, que ce soit pour les vendanges ou que ce soit pour les récoltes de Mirabelle.
Et la Mirabelle, vous la vendez sous fond d'eau de vie ?
Non, pas du tout.
En tant que fruit ?
En tant que fruit. D'accord. Tout part en plateau et ça monte sur le nord de la France. Une partie à Rungis, après sur des magasins spécialisés ou Biocoop. Enfin voilà, tout ce qui, aujourd'hui on est en bio, donc on peut avoir des structures qui peuvent nous accueillir comme le bio.
Ces magasins-là, puisque tu y viens, comment vous vendez la plupart de vos produits ? Le vin, vous le vendez en vente directe ? Vous passez par un magasin ?
On a une
vente centrale ?
On a une vente directe directement au magasin. Hein. Si vous avez l'occasion de passer par chez nous, on a fabriqué une structure où c'est que ça ressemble à un tonneau. Donc
on
peut pas le rater. Ça rappelle notre métier en fait. Hein, qu'on a pas mal de touristes chez nous. On est aux portes des gorges du Tarn. Donc une partie est faite sur la vente directe. Et on a des magasins partout en Aveyron, et maintenant on déborde pas mal sur toute la France.
Et donc le vin, donc vous passez par des magasins où vous faites en vente directe. La Mirabelle, vous passez par des centrales.
Grossistes en partie, oui.
Et la bière, vous la vendez comment ?
La bière, pareil, vente directe, et puis après on travaille sur des magasins, donc... C'est la bière, c'est un produit qui est nouveau pour nous, hein. Donc même au niveau commercialisation, donc on sait qu'il se consomme de plus en plus de bière. Donc aujourd'hui en France, il se consomme 30 litres de bière par personne. Comparaison en Allemagne, il se boit 100 litres par personne. La marche est haute encore, avant d'arriver au niveau des Allemands pour la consommation. Sachant que ça progresse chaque année. Hein.
Et au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous en vivez bien de votre métier ? Est-ce que vous partez en vacances ?
Oui, mais justement, si.
Parce que il y en a quelques-uns qui ne partent jamais en vacances.
Non, c'est toujours pareil, il faut savoir gérer ses priorités, quoi, tout simplement. Après, les vacances, c'est sûr que ça fait partie du travail aussi, heureusement.
Oui.
On
essaye des mille, mais...
Ouais, on vit, après on vit, quoi, honnêtement, on n'est pas...
Après, sur notre exploitation, que ce soit Eric ou moi, on sait faire, que ce soit en commercialisation, que ce soit en travail dehors ou production, on sait le faire tous les deux. Que s'il y en a un jour qui a un problème, qu'on sache pouvoir aller faire son travail s'il y a un souci. Quoi.
Puis quand vous partez en vacances aussi,
j'ai vraiment. Ben oui, bien sûr, exact. Après, on a un secrétaire qui nous seconde, donc ça nous soulage pas mal au bureau, parce qu'avant tout, on est des agriculteurs et pas des bureaucrates. De moment, gratter du papier. Faut bien qu'on aille prendre l'air d'eau parce que c'est pas notre métier.
Et ça, c'est pas des choses qu'on vous apprend quand vous passez vos diplômes agricoles et tout ça ?
Non, pas du tout.
Vous faites comment pour apprendre ? Vous faites des stages, des formations ? Vous faites conseiller par quelqu'un ?
Quelques formations, mais on apprend beaucoup sur le tas. Ouais. Donc, avec beaucoup de rappels à l'ordre parce que le papier, on l'a pas fait passer à temps. Ouais. Et donc, c'est la partie bureau pour un agriculteur, c'est quand même compliqué. Ouais.
Donc, vous avez grandi dans le milieu agricole. Vos parents étaient agriculteurs. Vous ne seriez pas vu faire... Au jour d'aujourd'hui, vous verriez faire un autre genre d'agriculture ? Travailler en conventionnel, travailler, je sais pas, sur de la brebis, travailler passer par une centrale ?
Enfin, en conventionnel, j'en ai fait c'est très longtemps jusqu'à ce que je rentre à Le Grec. Je referai pas la... Je repartirai pas l'arrière. Hein. Et puis, je suis passé en bio... Enfin, physiquement, j'ai vu la différence quand même. Quoi.
Ah bon ?
On a les produits Kataka.
Ah, oui.
Ouais.
Tu le sens vraiment quand tu les utilises ouais.
Ah oui, avant que je... Et là, les noirs, hein, que ils ont passé ça, et ça se sent que non, ouais, ça attaque le corps quand même.
Ouais.
Ouais, si.
Puis on a une belle région pour la polluer. C'est pour ça que on a passé nos Mirabelle en bio, parce que faut penser à... Ce qui arrive derrière nous.
Et puis
quoi.
Ça finit dans le Tarn.
Ça finit dans le Tarn, bien sûr.
On se baigne nos gosses.
C'est clair. Ouais. Donc nous, on a une exploitation 100% bio, que ce soit même la bière, est en bio.
Donc vous avez grandi dans le milieu agricole depuis plusieurs années, vous l'avez vu évoluer.
Ah, oui.
Est-ce que vous avez une idée de l'évolution que ça va continuer à prendre, l'agriculture dans 10 ans, dans 20 ans ? que ce soit
quoi, c'est fait, c'est
en, en viticulture, pour moi, je pense que c'est un métier qui va durer, parce qu'en fait, on ne dépend de rien, en fait. Ce qu'on produit, on ne dépend pas de je suis désolé, c'est méchant, mais de primes. Donc aujourd'hui, ce qu'on produit, on le revalorise pour le vendre à juste prix. Et donc, ça durera. Donc, voilà, on vit de notre métier. Donc, je suis désolé, mais ça reste... peut-être l'agriculture céréalière. Aujourd'hui, l'Europe fait en sorte que les robinets vont se fermer petit à petit. L'exploitation qui voit loin, ça sortira aussi. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas aguicher des agriculteurs avec des primes. Donc, il faut, c'est un métier, quoi. C'est l'agriculteur qui décore notre terre. Donc, s'il n'y a plus d'agriculteurs, il n'y a que des buissons, quoi.
C'est le principal paysagiste du
paysage. C'est ça, c'est le vrai paysagiste, c'est vrai en plus. Mais il y a des métiers qui dureront, hein. Donc on le voit, l'agriculture aujourd'hui, il transforme de plus en plus, c'est ce que je veux dire, en fait, ceux qui voyaient loin, des petits marchés, les touristes, ça leur plaît, parce que c'est du consommateur au vendeur, hein.
Mais,
du vendeur au consommateur, c'est mieux.
Est-ce qu'on va rester sur les mêmes techniques, hein? Est-ce que les fermes vont s'agrandir, vont se rapetisser? Est-ce que la vente directe va continuer à croître, hein? Est-ce que...
Le petit restera,
ouais.
Le moyen souffrira, et je pense que le grand arrivera à s'en sortir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, aujourd'hui on fabrique des geeks, parce qu'en fait l'agriculteur, c'est plus l'agriculteur d'avant, on prend des vacances à l'agriculteur, donc de regrouper des geeks, c'est qu'il y a toujours un associé qui est là, sur place.
Oui, Eric, tu as une idée de réclusion dans les années à venir?
Qui va donner le tempo, c'est déjà le réchauffement climatique. Déjà. C'est vrai que l'avantage de la vigne, c'est que c'est une plante déjà méditerranéenne, donc ça craint moins les sécheresses. Tandis qu'après, les arbres en arbreau, à part l'irriguer, c'est un peu plus complexe. Quoi. Après, je me dis qu'à toute. Toute saison ou toute année, les agriculteurs ont su se remettre en question pour pouvoir évoluer dans le bon côté aussi, quoi.
Mais bon, j'ai lu sur un article là, ces derniers temps qu'en Aveyron, on a perdu 1500 agriculteurs. Ça veut dire que c'est des exploitations qui ne sont pas renouvelées, quoi. Donc, et aujourd'hui...
C'est parti à l'agrandissement.
Oui, c'est ça.
Et en sachant qu'un agriculteur... Si un agriculteur nourrit, fait vivre 7 personnes agriculteurs, donc déjà 1500 agriculteurs.
C'est pour ça que les campagnes se vident. Que
moi j'y crois, que ça va revenir. Ça
va revenir.
Je pense que le Covid a inversé un peu les tendances. Je pense qu'on quitte les villes pour sortir dehors aujourd'hui.
Le vent fera craquer les branches. La brume viendra dans sa robe blanche. Il y aura des feuilles partout couchées sur les cailloux. Octobre tiendra sa revanche. Le soleil sortira à peine. Nos corps se cacheront sous des bouts de laine. Perdu dans tes foulards, tu croiseras le soir octobre endormi aux fontaines. Il y aura certainement sur les tables en fer blanc quelques vases vides et qui traînent. Et des nuages pris aux antennes. J'offrirai des fleurs et des nappes en couleur pour ne pas qu'octobre nous prenne. On ira tout en haut des collines, regarder tout ce qu'octobre illumine. Mes mains sur tes cheveux, des écharpes pour deux devant le monde qui s'incline. certainement appuyé sur des bancs. Il y aura quelques hommes qui se souviennent. Et des nuages pris sur les antennes. Je t'offrirai des fleurs et des nappes en couleur pour ne pas qu'octobre nous prenne. Et sans doute on verra apparaître quelques dessins sur la baie des fenêtres. Vous, vous jouerez dehors comme les enfants. Nord, octobre restera peut-être. Vous, vous jouerez dehors comme les enfants du Nord, octobre restera peut-être.
Donc là, on est dans votre local de vente. Un lieu neuf, c'est tout neuf ça.
2018, on...
ouais, au mois d'août,
2017, j'ai commencé 2018. Ouais. Donc c'est tout neuf en fait, on est en bordure de route, hein, donc, oui. et ça a une forme de tonneau en fait, oui, que ce soit extérieur comme intérieur.
Ouais. Voilà. Et donc ici, vous ne vendez pas que des produits à vous, il me semble, si ? Parce que j'ai vu du miel, j'ai
alors,
vu
du miel, coca. Alors, du miel, en fait, on travaille par, avec des agriculteurs, ils nous font travailler, ouais. Et nous, on les fait travailler en contrepartie. Ils mettent notre vin en dans leur petit magasin, et ouais. Nous on prend en contrepartie. Après, on n'est pas une d'accord. épicerie, ouais. On prend le minimum. Ouais. Voilà, nous notre.
C'est un échange de bons procédés.
Voilà, c'est... Voilà.
Bon, donc, oui, voilà, c'est très joli, très croqué, c'est propre. Hein. C'est... Ouais, c'est... Il y a un stock de vin impressionnant là-bas derrière.
Ouais, c'est pour. On les attend. Hein.
Eh bien, oui, allez, c'est ici.
Et bien, on okay. va descendre à la cave.
Allez.
Allez.
Si ça enregistre.
Donc là on descend dans la cave. En fait,
dans la cave,
en fait on a le stand de vente au-dessus, stand de vente, et dessous on a tout notre outil de travail.
Ok, ah voilà. Bonjour. Avec des cuves de vinification, ça, c'est comme ça que ça
ouais,
s'appelle.
Ça s'appelle comme ça. Donc on a des cuves en fibre de verre parce que c'est beaucoup moins cher que l'inox. Et ça fait le même travail.
Donc, voilà. Vous en avez combien parce que là, j'ai oui. pas compté. Je vois 20 écrit dessus.
Ouais,
28.
Ouais, on va voir.
Il y en a, on va pas
oui,
les compter.
Oui, parce qu'en fait, avec 30 hectares de vigne, donc aujourd'hui, ça fait à peu près 30 hectares de vigne, on fait à peu près 130 000 bouteilles produites à
très bien. À la combien d'hectos ça fait
ça fait 1200 hectos.
D'accord. Très bien.
Donc voilà, après, on a une partie garde. En fût de chêne, hein. Donc on a le local fût de chêne, hein, mm-hmm. pour faire venir nos vins, parce qu'on a réinventé, nous, en fait. Ce qui se fait, c'est que le passage en fût de chêne protège le vin, donc c'est ce que très en bien. Bio, voilà, c'est ce qu'ils avaient compris à l'époque, les anciens.
Combien de temps vous les gardez en fût ?
Un an.
Un an.
Un an, mais on renouvelle, hein, nos tonneaux, mm-hmm. Pendant 3 ans, 3-4 ans, ça dépend les années, si on a... On peut acheter d'autres, ou si on ne peut pas acheter, on garde encore les fûts.
Très bien. Et alors, quand un fût est vide, il est perdu ou il faut le nettoyer et on le réutilise ?
Alors, un fût, dès qu'on le vide, il se nettoie à l'eau, et après, il faut le mécher avec du soufre pour étouffer, pour tuer la bactérie dedans, quoi. C'est ce qui n'est pas de virus à l'intérieur. Donc, nous on ne le fait pas, ça. Nous, on vide et on remplit d'air. On nettoie et on remplit d'air.
Très bien. Donc, c'est des fûts de 100 litres ?
225 litres.
225.
Et on diminue ça parce qu'on ne cherche plus le goût du bois, on cherche la rondeur du vin. Mm-hmm. Et on passe sur des 400 litres parce qu'il y a plus de volume dedans et donc le vin a plus de place à l'intérieur. Mm-hmm. Donc et si on pouvait, on pourrait prendre encore plus grand. Mais ça vaut très cher, ça, ouais. c'est fabriqué à la main.
Et c'est fabriqué où ça ?
Ben, on en a essayé un peu de partout hein, pour avoir plusieurs goûts dans nos vins et on mm-hmm. s'est arrêté chez Orion dans le Gers.
Dans le Gers.
Donc voilà.
Ok.
Et là, on arrive à la partie brasserie.
Voilà, j'ai reconnu. Donc, je suis déjà allé voir les brasseurs. Et donc, deux énormes cuves.
Voilà, ouais, en fait, c'est vraiment une brasserie qui c'est un gros investissement.
Ouais.
Voilà, ça brasse 2000 litres par jour.
Par jour,
mais on ne brasse pas tous les jours. Et nous, on brasse à la demande, en fait. Mmh. Donc, voilà.
Combien de bouteilles vous produisez à peu près ?
Ben en fait, nous, la bouteille en verre, on ne fait pas trop. C'est pas notre production, en fait. On a basculé sur la canette en alu, en fait. On est les premiers en France à avoir investi dans une machine qui remplit les canettes en alu, parce que pour l'écologie, la canette en alu, déjà, un coût transport avec un transporteur, c'est pas lourd. Donc, déjà, de l'effet carbone.
On peut plus pour un import.
C'est ça, ouais. La canette en alu, c'est de l'allure, 100% recyclable. Donc, c'est l'avenir. On va vers ça, en fait. Parce que le verre, aujourd'hui, tout le verre n'est pas recyclable. Parce que, suivant l'étiquette qu'on colle dessus, parce qu'on veut faire des étiquettes qui sont originales, il y a pas mal de chrome sur ces étiquettes. Et il ne se recycle pas ce chrome. Donc, dès qu'une bouteille a du chrome, elle part au déchet directement. Donc, elle n'est pas recyclée. Et puis, ce qui se faisait à l'époque dans la bouteille, c'est qu'on reprenait les bières vides, les bouteilles vides, et on les relavait et on les réutilisait. Et aujourd'hui, il n'y a plus un brasseur ou un bar qui a plus de place pour les stocker. Ouais. Personne ne va les chercher pour les récupérer. Donc,
ça ne se fait plus les consignes et tout.
L'écologie sur le verre, ça devient compliqué. Vous prenez une canette en alu. Aujourd'hui, ce n'est pas encore entré à la tête de tout le monde. Ça fera comme le bip de 5 litres à l'époque, soi-disant qu'on n'y mettait que des vins qui n'étaient pas bons. Mais aujourd'hui, on y trouve des grands crus à l'intérieur. Donc, c'est rentré aussi comme le vin que ça fera pour la bière. Vous écrasez la canette, une fois qu'elle est vide, ça part au récupère jaune et ça part directement au recyclage. Donc, c'est fondu et le recyclage est 100%. Donc, voilà.
Et le conditionnement n'est pas trop sophistiqué à faire pour fermer le...
Non, c'est une machine automatique. Donc, on continue, on passe dans la partie conditionnement et stockage. Voilà, en fait, nos canettes, c'est ça, c'est la menhir. Donc, en Aveyron, il y a beaucoup de menhirs, surtout sur cette Afrique.
Les statues menhirs.
Elle s'appelle la menhir. Donc voilà, on fait la 50 et la 33.
D'accord.
Et d'autant plus que la bière se conserve en bio bien mieux que du verre, parce qu'en fait, elle ne voit pas la lumière. La lumière ne traverse pas la bouteille en verre. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on met des bouteilles en verre très sombres, pour pas que la lumière abîme la bière, parce que c'est fragile, la bière.
Oui, d'accord.
Et là, elle voit rien.
Là, elle est protégée. Donc, voilà. Et vous avez une seule sorte de bière ?
Non, on fait de la blonde, de la ambrée et de la blanche. Mm-hmm. On fait aussi de la bière au CBD.
Ah oui.
Parce que depuis janvier, on fait du vin au CBD depuis mai.
Du vin au CBD.
Ouais. Donc c'est complètement. On est vraiment, nous, on cherche toujours.
Ouais, vous essayez quoi.
Voilà, ouais. Donc voilà, on fait au CBD qui est aujourd'hui. On en parle beaucoup. Quoi.
Et ça, c'est la sertisseuse à canette ?
Non. Ça, c'est pour faire du fût. À partir de ça fait déjà plus de mois.
Des fûts comme ça.
On fait des fûts de 30 litres pour les bars, pour les comités de fête. C'est une bière bio. Si ça redémarre un jour, ça peut être.
Très bien. Vous en vendez jusqu'où de la bière ?
Jusqu'à Paris.
C'est vrai ? Moi aussi ?
Ouais. Jusqu'à Paris, on est un peu sur Clermont, beaucoup d'Aléro, surtout en canette en alu, on a fait toute la saison d'été sur le bord des plages, donc, ça a couvert tout l'été. Donc,
d'accord.
Voilà. Donc vous ne retrouvez pas de verre sur la plage, vous ne pouvez pas vous tailler un pied, donc ça a bien plu à pas mal de monde sur les professionnels de l'Aléro. Donc,
est-ce que c'est vous qui faites du cola ?
Oui, ça vient de sortir la semaine dernière.
Incroyable.
Et bon, mais il n'est pas bio, on n'y arrive pas pour l'instant à faire du cola bio parce qu'on fait un ajout de CO2 dedans. Uh-huh. Mais on y travaille dedans. C'est du cola.
De bonne cola.
Bonne cola. Mais c'est super bon.
Ça, c'est incroyable.
On a travaillé avec notre œnologue dessus parce qu'on a un œnologue pour le vin qui nous accompagne parce qu'on est agriculteur, mais on a besoin de conseils de l'extérieur. Donc, on a élaboré aussi ce cola. Donc voilà, après bière CBD.
Toute verte.
Toute verte, ouais. Voilà, et après on fait des bibes 5 litres. Donc on a fait à peu
près. Des bibes, ce que tu appelles des bibes, c'est des.
C'est du cubi en fait, à l'époque c'était du plastique. Les poches, c'est ces poches qui se rétractent, au moins ça ne prend pas l'air. Et en bio, c'est du moment que ça ne prend pas l'air, ça ne s'oxyde pas en fait. Donc c'est une bonne méthode. Voilà,
on a fait à peu près le tour.
Ouais, donc après sur nos rosés, on fait du rosé blanc et rouge et tous nos vins passent d'or. Pour avoir, c'est un dépôt tartrique, en fait, le froid, ce que faisait à l'époque, parce que comme on ne travaille pas avec aucun chimique vu qu'on est en bio, c'est le froid qui nous fait des dépôts de toutes les matières lourdes.
Le froid favorise le dépôt des matières au fond.
Prenez un exemple avec. Vous prenez un blanc. Vous le mettez au frigo, vous le ressortez, vous le mettez au frigo, et des fois, au fond de la bouteille, il y a des dépôts tartriques. On croirait du sucre blanc, en fait, c'est des tartres. chaud froid, ça dépose. D'accord. Que nous, on fait passer directement au froid, mais on évite, ça se peut qu'il en reste, mais on évite ça. Mon beau-père, il ne voulait pas passer en bio, hein, parce qu'il voulait des vignes propres, comme dans l'Hérault, propres, bien alignées et tout ça. Et je disais, quand même, c'est moi qui passe les produits de traitement, parce qu'avant d'être en bio, j'étais en chimique. J'ai dit, mais je vais mourir quand même un jour avec ces produits-là. Ouais, mais il faut que ce soit propre. Et chaque année, je remettais la même couche, comme on dit. Et une année, j'ai eu une idée, essayer d'aller voir les produits, les résidus qu'il y avait au fond de cette bouteille. Et donc, on y a trouvé un peu de zerbin, un produit chimique. Et à un moment-là, on est passé en bio. Donc, c'était important pour tout le monde.
Bah oui. Donc, voilà. Pour vous, les premiers, d'ailleurs.
Ouais, pour nous, les premiers.
Ok. Bon, mais on a fait à peu près.
Merci, ouais. Ouais, on a fait le tour.
Eh bien, écoute, je te remercie.
Merci à vous. Et...
Merci de m'avoir tout bien expliqué, tout bien présenté.
Voilà, il faut venir nous voir.
Eh bien, oui. Et donc, voilà, sur la route des gorges du Tarn.
Du Tarn, ouais.
On voit un gros tonneau au bord de la route.
Pas mal de monde qui nous connaissent déjà, donc c'est bien, le monde est petit. Donc, voilà. Merci beaucoup.
Et merci d'avoir pris le temps de parler de ton métier.
Avec plaisir. Merci à vous.
Allez, je vous prie.
Merci à Ludovic et Eric, dont les initiatives ne manquent pas de créativité. Retrouvez toutes les paroles rurales sur le site radiosaintafrique.com, onglet Les émissions, rubrique Les hebdos. Sinon, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne.